Alexandre Dumas, le curé de Boulogne. Voici une petite histoire qui est populaire dans la marine française et que je meurs d'envie de populariser parmi les terriens. Vous me direz si elle valait la peine d'être racontée. Le 14 novembre de l'année 1766, une calèche découverte attelée de chevaux de poste emportant trois officiers de marine, dont l'un était assis sur la banquette du fond et les deux autres sur la banquette de devant, ce qui indiquait une différence notable dans les grades, traversait le bois de Boulogne, venant de la barrière de l'Étoile et suivant l'avenue de Saint-Cloud. À la hauteur du château de la Muette, elle croisa un prêtre qui se promenait à petits pas, lisant son bréviaire dans une contre-allée. « Hé, postillon !» cria l'officier assis au fond de la calèche. « Arrêtez-vous donc un peu, s'il vous plaît. » Le postillon s'arrêta. Cette invitation donnée à haute voix et le bruit que fit le postillon en arrêtant ses chevaux amenèrent naturellement le prêtre à lever la tête et à fixer les yeux sur la calèche et les trois voyageurs. « Par Dieu, je ne me trompais pas !» dit l'officier assis au fond de la voiture. « C'est toi, mon cher Rémi !» Le prêtre regardait avec étonnement. Cependant, peu à peu, son visage s'éclairait du jour qui se faisait en lui-même et sa bouche passait de l'étonnement au sourire. « Ah ! » dit-il enfin, « c'est vous ! Comment vous ?» « Ah non, c'est toi, Antoine. Oui, c'est moi, Antoine de Bougainville. Mon Dieu, qu'es-tu donc devenu depuis 25 ans que nous nous sommes quittés ?»« Ce que je suis devenu, cher ami, dit Bougainville, ben viens t'asseoir un instant près de moi et je te le dirai. » Mais le prêtre regarda autour de lui avec inquiétude, comme s'il avait peur de s'écarter de son domicile. Bougainville comprit sa crainte. « Sois tranquille, nous irons au pas, » répondit-il. Un valet descendit du siège de derrière et abaissa le marchepied. « C'est qu'il est 11h15, » dit le prêtre, « et Marianne m'attend pour dîner. »« Où demeures-tu donc ? Mais assieds-toi donc !» Et Bougainville tira légèrement par sa soutane le prêtre qui s'assit. « Où je demeure ?» dit celui-ci. « Oui, mais à Boulogne, je suis curé de Boulogne, mon ami. »« Ah, je t'en fais mon compliment. Tu avais toujours eu la vocation. »« Aussi, tu vois, suis-je entré dans les ordres. »« Et t'es content ?»« Enchanté, mon ami. La cure de Boulogne n'est pas une cure de premier ordre. » Elle ne rapporte que 800 livres, mais mes goûts sont modestes et il me reste encore 400 livres par an à donner aux pauvres. Cher Rémi, vous pouvez aller au petit trot afin que nous prenions le temps le moins possible. Le postillon fit prendre à ses chevaux l'allure demandée, laquelle, si modérée qu'elle fût, n'en amena pas moins un nuage d'inquiétude sur la physionomie du curé. « Mais sois donc tranquille, » dit Bougainville, « puisque nous allons du côté de Boulogne. »« Mon ami, » dit en riant l'abbé Rémy, « il y a 20 ans que je suis curé à Boulogne. Il y a 15 ans que Marianne est avec moi, et jamais, à moins d'être retenu près d'un mourant, je ne suis entré à midi 5 minutes. » Aussi, à midi juste, la soupe est sur la table et tu comprends. Oui, oh, ne crains rien, je ne voudrais pas inquiéter Marianne. À midi juste, tu seras chez toi. Ah ben voilà qui me rassure. Mais parlons un peu de toi-même, n'est-ce pas l'uniforme de la marine que tu portes là? Oui, je suis capitaine de vaisseau. « Comment cela se fait-il? Je te croyais avocat. »« Vraiment ? D'abord, sortant du collège, Ne t'étais-tu pas mis à l'étude des lois? Oh, que veux-tu, mon cher Rémi? Toi, l'élu du Seigneur, tu dois mieux que personne connaître le proverbe « L'homme propose et Dieu dispose ». C'est vrai, j'ai été reçu en 1752, avocat au Parlement de Paris. Ah, je savais bien, moi, dit le bon prêtre, en tirant de son bréviaire son doigt qui indiquait la place où il en était resté de sa lecture. Ainsi, tu as été reçu avocat. Oui, mais en même temps que j'étais reçu avocat, continua Bougainville, je me faisais inscrire aux mousquetaires. Ah oui, en effet, tu avais toujours eu du goût pour les armes, et surtout des dispositions pour les mathématiques. Tu te rappelles cela? Bien, par exemple, n'étais-je pas ton meilleur ami au collège? Ah, c'est bien vrai. Est-ce toi ou ton frère Louis qui est de l'académie? Bougainville sourit. C'est mon frère, ou plutôt, dit-il, c'était mon frère. Car il faut que tu saches que j'ai eu le malheur de le perdre il y a 3 ans. Oh, pauvre Louis! Mais que veux-tu, nous sommes tous mortels, et il fait bon de regarder cette vie que comme un voyage qui nous mène au port. Pardon, mon ami, il me semble que nous passons Boulogne. Bougainville regarda sa montre. « Bah, dit-il, qu'importe, il est 11h30, et par conséquent, tu as encore 20 bonnes minutes devant toi. Allez, plus vite, postillon !»« Mais comment plus vite? Ben, puisque tu es pressé, mon ami. Bougainville, quoi, le désir de savoir ce que je suis devenu ne l'emporte pas en toi sur la crainte d'inquiéter Marianne ?» Par un regard de 5 minutes. Oh, le triste ami que j'ai là. Bon, tu as raison, oui, ma foi. 5 minutes de plus ou de moins. Raconte-moi cela, mon cher Antoine. D'ailleurs, quand je dirai à Marianne que c'est pour toi et par toi que je suis en retard, elle ne grondera plus. Marianne me connaît donc? Ah, si elle te connaît. Je le crois bien. 20 fois je lui ai parlé de toi. Mais voyons, dépêche-toi et achève de me dire comment il se fait que, ayant été reçu avocat, et t'étant fait inscrire dans les mousquetaires, je te retrouve officier de marine. Oh, c'est bien simple, et en 2 mots, je vais t'expliquer tout cela. En 1753, j'entrais comme aide-major dans le bataillon provincial de Picardie. L'année suivante, je fus nommé aide-de-camp de Chevert, que je quittais pour devenir secrétaire d'ambassade à Londres et me faire recevoir membre de la Société royale. En 1756, je partis comme capitaine de dragons avec le marquis de Montcalm, chargé de défendre le Canada. Bon, interrompit l'abbé Rémy, je te vois venir. Continue, mon ami, continue, je t'écoute. Complètement captivé par le récit de Bougainville, l'abbé n'avait pas remarqué que le chevaux était passé tout doucement du petit trot au grand trot. Bougainville continua. Mais une fois au Canada, j'étais presque maître de mon avenir. Je n'avais qu'à bien faire pour arrivé à tout, alors je fus chargé par le marquis de Montcalm de plusieurs expéditions que je menais à bonne fin. Ainsi, par exemple, après une marche de 60 lieues à travers des bois que l'on jugeait impénétrables, et tantôt sur un terrain couvert de neige, tantôt sur les glaces de la rivière de Richelieu, je m'avançais jusqu'au fond du lac du Saint-Sacrement, où je brûlais une flottille anglaise, sous le fort même qui la protégeait. « Comment ? » dit l'abbé. « C'est toi qui as fait cela ?»« Oh, j'ai lu la relation de cet événement, mais je ne savais pas que tu en fusses le héros. »« N'as-tu pas reconnu mon nom ? » Bon, j'ai reconnu le nom, mais je n'ai pas reconnu l'homme. Comment veux-tu que je reconnaisse dans un basochien que je quitte étudiant les lois et aspirant à être avocat au Parlement, un gaillard qui brûle des flottes au fond du Canada? Tu comprends bien que ce n'était pas possible. En ce moment, la voiture s'arrêta devant une maison de poste. Oh, dit l'abbé Rémy, où sommes-nous, Antoine? Mais nous sommes à Sèvres, mon ami, à Sèvres. Et quelle heure est-il? Bougainville regarda sa montre. Il est midi 10 minutes. Oh, oh mon Dieu! S'écria l'abbé, mais jamais je ne serai à Boulogne pour midi. Ah oui, ça, c'est plus que probable. Une lieue à faire. Oh, une lieue et demie. Oh, si au moins je trouvais un coucou. L'abbé se leva tout droit dans la voiture, porta ses regards autour de lui aussi loin que la vue pouvait s'étendre, et n'aperçut pas le plus mince véhicule. N'importe, j'irai à pied. Mais non, tu n'iras pas à pied, dit Bougainville. Comment je n'irai pas à pied? Oh non, il ne sera pas dit que tu auras attrapé une pleurésie pour avoir fait la conduite à un ami. J'irai doucement. Oh, je te connais. Tu craindras d'être grondé par Mademoiselle Marianne. Tu presseras le pas, tu arriveras en sueur. Tu boiras froid, tu te donneras une fluxion de poitrine. Un imbécile de médecin te purgera au lieu de te saigner, ou te saignera au lieu de te purger. Et 3 jours après, bonsoir, plus d'abbé Rémy. Mais il faut pourtant que je retourne à Boulogne. Hé, postillon, postillon, arrêtez, arrêtez donc! Et la voiture relayée repartait au trot. Écoute, dit Bougainville, voici ce qu'il y a de mieux à faire. Mais ce qu'il y a de mieux à faire, mon bon ami, mon cher Antoine, c'est d'arrêter les chevaux afin que je descende et que je regagne Boulogne. Mais non, dit Bougainville, ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de venir avec moi jusqu'à Versailles. Jusqu'à Versailles. Oui, puisque tu as manqué le dîner de Mademoiselle Marianne, tu dîneras avec moi à Versailles. Pendant que j'irai prendre les derniers ordres de Sa Majesté, un de ces messieurs se chargera de trouver un coucou qui te ramènera à Boulogne. Non, en vérité, mon ami, ce serait avec grand plaisir, mais. Mais quoi? L'abbé Rémy tâta les poches de sa veste, plongea alternativement les deux mains jusqu'au fond de ses goussets. Mais, continua-t-il, Marianne n'a pas mis l'argent dans mes poches. Que cela ne tienne, mon cher Rémy. À Versailles, je demanderai au roi 100 écus pour les pauvres de Boulogne. Le roi me les accordera. Je te les donnerai, tu les remprunteras un petit écu afin de retourner en coucou à Boulogne et tout sera dit. Comment, tu crois que le roi te donnera 100 écus pour mes pauvres? J'en suis sûr. Parole d'honneur, foi de gentilhomme. Ben mon ami, en voilà qui me décide. Merci, tu ne serais pas venu pour moi. Et tu viens pour tes pauvres. Mieux vaut à ce qu'il paraît être ton pauvre que ton ami. Oh, je ne dis pas cela, mon cher Antoine. Mais tu comprends, un curé qui se dérange, il lui faut une excuse. Une excuse? Oh, si tu découchais, je ne dis pas. Comment? Si je découchais? S'écria l'abbé Rémy effrayé. Aurais-tu donc l'intention de me faire découcher? Postillon, hé, postillon! Mais non, n'aie donc pas peur. Au train où nous nous allons, nous serons à Versailles à 1 heure. Nous aurons dîné à 2 et tu pourras partir à 3. Pourquoi à 3 et pas à 2? mais parce qu'il me faut le temps de voir le roi et de lui demander les 100 écus. Ah oui, c'est vrai. 3 heures pour revenir en coucou de Versailles, tu seras chez toi à 6 heures. Mais que dira Marianne ? Bon, quand Marianne te verra revenir avec 100 écus émanant directement du roi, Marianne sera heureuse et fière de ton influence. Mais tu as ma foi raison. Tu me raconteras tout ce que le roi t'aura dit. Elle en aura pour 8 jours avec ses voisines à parler de cette aventure. Ainsi c'est convenu, nous dînons à Versailles. Va pour Versailles, mais au moins dis-moi la fin de ton histoire. Ah oui, c'est vrai. Nous en étions à mon expédition sur le Saint-Sacrement. Elle me valut le grade de maréchal des logis de l'un des corps d'armée et la mission d'aller à Versailles, expliquer la situation précaire du gouvernement du Canada et demander pour lui du renfort. Je restais 2 ans et demi en France, sans rien obtenir de ce que je demandais. Il est vrai que j'obtins ce que je ne demandais pas, c'est-à-dire la croix de Saint-Louis et le grade de colonel à la suite du régiment de Brouergue. J'arrivais au Canada juste pour recevoir du marquis de Montcalm le commandement des grenadiers et des volontaires dans la fameuse retraite de Québec que je fus chargé de couvrir. Arrivé sous les murs de la ville, Montcalm crut pouvoir risquer une bataille. Les 2 généraux furent tués. Montcalm dans nos rangs, Wolfe dans ceux des Anglais. Montcalm mort, notre armée battue, il n'y avait plus moyen de défendre le Canada. Alors je revins en France et je fis, en qualité d'aide de camp de M. de Choiseul-Stainville, la campagne de 1761 en Allemagne. « Mais alors, c'est donc à toi, interrompit le curé de Boulogne, que le roi a fait cadeau de 2 canons ?»« Oui, qui t'a appris cela ? » ?»« Mais je l'ai lu, mon ami, dans la Gazette de la Cour. Aurais-je pu penser que ce Bougainville-là était mon ami Antoine ?»« Et qu'as-tu dit du cadeau ?» D'abord, il m'a paru bien mérité, mais pourtant j'ai trouvé que le roi aurait pu donner à ce monsieur Bougainville, que j'étais si loin de me douter d'être toi, quelque chose de plus facile à transporter que 2 canons. Car enfin, c'est très honorable, 2 canons, mais on ne peut pas conduire cela partout où l'on va. Il y a du vrai dans ce que tu dis là, reprit Bougainville en riant, mais... Comme en même temps le roi venait de me nommer capitaine de vaisseau et de me charger de fonder pour les habitants de Saint-Malo et aussi pour moi-même un établissement dans les îles Malouines, je pensais que mes 2 canons pourraient avoir là leur utilité. Ah, cela c'est vrai, dit la mère Émilie, mais excuse mon ignorance en géographie, mon cher Antoine, où prends-tu les îles Malouines ? « Pardon, mon ami, dit Bougainville, j'aurais dû les appeler les îles Falkland, attendu que c'est moi qui leur ai donné ce nom d'île Malouine en l'honneur de la ville de Saint-Malo. »« Ah, le bonheur, dit l'abbé Rémy en souriant, sous ce nom-là, je les reconnais. Les îles Falkland appartiennent à l'archipel de l'océan Atlantique. Je les vois d'ici, près de la pointe méridionale de l'Amérique du Sud. » À l'est du détroit de Magellan. Par ma foi, dit Bougainville, Strong qui les a baptisés n'aurait pas mieux déterminé leur gisement. Tu t'occupes donc de géographie dans ta cure de Boulogne ? Bon, mon ami, étant jeune, j'avais toujours ambitionné une mission dans les Indes. J'étais né voyageur, moi. Je ne sais pas ce que j'aurais donné pour faire le tour du monde, autrefois, pas maintenant. Oui, je comprends, dit Bougainville, en échangeant un coup d'œil avec ses 2 compagnons aujourd'hui. Cela te dérangerait de tes habitudes. Alors, tu as voyagé? Ah, mon ami, je n'ai jamais dépassé Versailles. Ainsi, tu ne connais pas la mer? Non. Tu n'as jamais vu un vaisseau? Si, j'ai vu le coche d'Auxerre. C'est quelque chose, mais cela ne peut te donner qu'une idée très imparfaite d'une frégate de 60 canons. Je le crois comme toi, ajouta naïvement l'abbé Rémy. Alors étudie donc que tu partis pour les îles Malouines, où le gouvernement t'avait autorisé à fonder un établissement que tu fondas, je n'en doute pas. En effet, malheureusement, les Espagnols, après la paix de Paris, firent valoir leurs droits sur ces îles. Leur réclamation parut juste à la cour de France, qui les leur rendit, à la condition qu'ils m'indemniseraient les frais que j'avais faits. Et t'ont-ils indemnisé au moins? Oui, mon cher ami, ils m'ont donné 1 million. 1 million, peste! Joli denier! Le bon abbé avait presque juré, comme on voit. Et aujourd'hui, continua-t-il, tu vas? Je vais au Havre. Pourquoi faire? Mais pardon, mon ami, peut-être suis-je indiscret. Indiscret? Par exemple, je vais au Havre pour visiter une frégate dont le roi vient de me nommer capitaine. Et elle s'appelle ta frégate? La Boudeuse. Oh, ça doit être un beau bâtiment. Superbe! L'abbé Rémy poussa un soupir. Il était évident que le pauvre prêtre pensait au plaisir qu'il eût éprouvé du temps qu'il était libre à voir la mer et à visiter une frégate. Ce soupir amena entre Bougainville et les deux officiers un nouvel échange de regards accompagné d'un sourire. Sourire et regard passèrent inaperçus du digne abbé Rémy, qui était tombé dans une si profonde rêverie qu'il ne revint à lui que lorsque la voiture s'arrêta devant un grand hôtel. « Ah, il paraît que nous sommes arrivés, dit-il, j'ai très faim. » Eh bien, nous n'attendrons pas, car le dîner doit être commandé d'avance. L'agréable vie que celle de capitaine de vaisseau, dit l'abbé. On reçoit des millions des Espagnols. On court la poste dans une bonne calèche, et quand on arrive, on trouve un dîner qui vous attend. Pauvre Marianne, elle a dîné sans moi, elle. Bah, dit Bougainville. Une fois n'est pas coutume. Nous allons dîner sans elle, nous, et j'espère que son absence ne t'ôtera pas l'appétit. Oh, sois tranquille, c'est que j'ai véritablement très faim. Eh bien, alors à table, à table. À table, répéta Gaillard devant l'abbé Rémy. Le dîner était bon. Bougainville était un gourmet. Il ne buvait que du vin de champagne. La mode venait d'être inventée de le glacer. Tout curé, fût-ce le curé d'une bourgade ou d'un hameau, fût-ce le desservant d'une chapelle sans paroissiens, est aussi un tant soit peu gourmet. L'abbé Rémy, si modeste qu'il était, avait ce côté sensuel dont la nature a doté le palais des hommes d'église. Il voulut d'abord ne boire que quelques gouttes de vin dans son eau, puis il mélangea le vin et l'eau en parties égales, puis enfin il se décida à boire son vin pur. Quand Bougainville le vit arriver à ce point, il se leva, annonçant que l'heure était venue pour lui de se présenter chez le roi, auquel il allait adresser la requête relative aux pauvres de Boulogne. Les deux officiers devaient pendant ce temps tenir compagnie à l'abbé Rémy. Comme il l'avait dit, Bougainville fut absent une heure. Malgré les instances des officiers, le digne prêtre s'était tenu dans un état d'équilibre qui faisait honneur à sa volonté. « Eh bien, » dit-il en apercevant Bougainville, « et mes pauvres ?»« Ce n'est pas 300 livres que le roi m'a donné pour eux, » dit Bougainville en tirant un rouleau de sa poche. « C'est 50 louis. »«
Comment ? 50 louis ?» s'écria l'abbé Rémy, tout ébouriffé de la largesse royale. « 1200 livres ?»
« Oui, 1200 livres.
Impossible. Les voici. »
L'abbé Rémy tendit la main.
« Mais le roi me les a remises à une condition. »
« Laquelle ?»«
C'est que tu boiras à sa santé.
Oh, qu'à cela ne tienne !»
Et il présenta son verre, sur le bord duquel Bougainville inclina le goulot de la bouteille.
« Assez, assez !» dit l'abbé.
« Allons donc, » reprit Bougainville, « un demi-verre. »
Eh bien, le roi serait content s'il voyait boire à sa santé dans un verre à moitié vide.
« Le fait est, » dit gaiement l'abbé Rémy, « que 1200 livres, cela vaut bien un verre entier. Verse tout plein, Antoine, et à la santé du roi. »
« À la santé du roi !» répéta Bougainville.
« Ah !» dit l'abbé Rémy en posant son verre sur la table, « voilà ce qu'on appelle une véritable orgie. Il est vrai que c'est la première fois que je le fais et que de longtemps je n'aurai pas l'occasion d'en faire une seconde.
« Sais-tu une chose ?» dit Bougainville en posant ses coudes sur la table.
« Non, » répondit l'abbé Rémy, dont les yeux brillaient comme des escarboucles.
« Une chose que tu devrais faire. »«
Laquelle ?»«
Tu m'as dit que tu n'avais jamais vu la mer. »«
Oh, jamais. »«
Eh bien, tu devrais venir au Havre avec moi. »«
Moi ?» Au Havre avec toi, mais tu n'y songes pas, Antoine.
Au contraire, je ne songe qu'à cela.
Un verre de vin de champagne?
Ah, merci, je n'ai déjà que trop bu.
Ah, à la santé de tes pauvres, c'est un toast que tu ne saurais refuser.
Oh, oui, mais une goutte.
Une goutte. Quand tu as bu le verre plein pour le roi?
Oh!
« Cela n'est pas évangélique, mon cher Rémy. Notre Seigneur a dit « Les premiers seront les derniers. Un verre plein pour les pauvres de Boulogne ou pas du tout ?»«
Bon, va donc pour le verre plein, mais c'est le dernier. »
Et l'abbé, bon catholique, vida aussi gaillardement son verre à la santé des pauvres qu'il l'avait vidé à la santé du roi.
« Là, » dit Bougainville, « et maintenant, c'est dit, nous partons pour le Havre. »«
Antoine, tu es fou !»«
Tu verras la mer, mon ami, et quelle mer ! Oh, pas un lac comme cette pauvre Méditerranée, l'océan qui enveloppe le monde. »«
Oh, ne me tente pas, malheureux. »«
L'océan que tu avoues toi-même avoir eu envie de voir toute ta vie. »
Oh, va, des rétro, Satanas,
c'est l'affaire de 8 jours.
Mais tu ne sais donc pas que si je m'absentais 8 jours sans congé, je perdrais ma cure.
J'ai prévu le cas, et comme Monseigneur l'évêque de Versailles était chez le roi, je lui ai fait signer ta permission en lui disant que tu venais avec moi.
Tu lui as dit cela ?
Oui.
Et il a signé ma permission ?
La voici.
C'est parbleu, Bien sa signature. Oh bon, voilà que je jure, moi. Mon ami, tu es marin dans l'âme. Oh non, non, donne-moi mes 50 louis et laisse-moi m'en aller. Bon, voici les 50 louis, mais tu ne t'en iras pas. Mais pourquoi cela? Parce que je suis autorisé par le roi à t'en remettre 50 autres au Havre, et que tu ne seras pas assez mauvais chrétien pour priver tes pauvres, c'est-à-dire tes enfants, ton troupeau, ceux dont le Seigneur t'a donné la garde, de 50 beaux louis d'or. Eh bien, s'écria l'abbé Rémy, va pour le voyage du Havre, mais c'est uniquement pour eux que j'y consens. Puis s'arrêtant tout à coup, « Mais non, non, oh non, dit-il avec explosion, c'est impossible. »« Comment impossible ?»« Mais Marianne, tu vas lui écrire qu'elle ne soit pas inquiète. »« Mais que lui dirais-je, mon ami ?»« Oh, tu lui diras que tu as rencontré l'évêque de Versailles et qu'il t'a donné une mission pour le Havre. » Mais ce sera mentir, cela. Mentir pour un bon motif n'est pas péché, c'est vertu. Mais elle ne me croira pas. Ben, tu lui montreras ta permission, signée de l'évêque. Tiens, c'est vrai. Oh, ces avocats, ces militaires, ces marins, ils ont réponse à tout. « Voyons, veux-tu une plume, de l'encre, du papier ?» L'abbé Rémy réfléchit un instant, et sans doute se dit-il qu'un mensonge écrit était un plus gros péché qu'un mensonge de vive voix, car tout à coup, « Non, non, dit-il, j'aime mieux lui conter cela à mon retour. Mais elle me croira mort. Elle n'en sera que plus joyeuse de te revoir vivant. » « Alors, mon ami, ne me laisse pas le temps de la réflexion, alors enlève-moi. » Rien de plus facile. Puis se tournant vers les deux officiers, « Les chevaux sont attelés, n'est-ce pas ?»« Oui, capitaine. »« Eh bien, en voiture, alors ?»« En voiture, » répéta l'abbé Rémy, comme un homme qui se jette tête baissée dans un péril inconnu. « En voiture !» répétèrent gaiement les deux officiers. En montant en voiture, on courut la poste toute la nuit. Le lendemain, à 5 heures du matin, on était au Havre. Bougainville choisit lui-même la chambre que devait occuper son ami, lequel, fatigué de la route et un peu alourdi encore du dîner de la veille, s'endormit et ne se réveilla qu'à midi. Juste comme il se réveillait, Bougainville entra dans sa chambre et rouvrit ses fenêtres. L'abbé jeta un cri de surprise et d'admiration, les fenêtres donnaient sur la mer. Un quart de lieue en rade se balançait gracieusement, la boudeuse affourchée sur ses ancres. « Oh !» demanda l'abbé Rémy, « qu'est-ce que ce magnifique bâtiment ?»« Mon ami, dit Bougainville, c'est la boudeuse où nous sommes attendus pour dîner. »« Comment tu veux que je m'embarque ?»« Bon, tu serais venu au Havre et tu ne t'en retournerais sans avoir visité un bâtiment. Mais, cher ami, c'est comme si tu allais à Rome sans voir le pape. C'est vrai, dit l'abbé Rémy, mais quand venons-nous? Cela te regarde, après dîner, quand tu voudras. Tu donneras tes ordres. C'est toi qui seras capitaine à mon bord. Eh bien, alors partons plus tôt que plus tard. Nous avons mis 14 heures pour venir, mais je mettrai bien 5 ou 6 jours pour m'en aller. Mais que t'importe, puisque tu as permission pour une semaine. Oh, je sais bien, mais vois-tu, c'est Marianne. Mais te figures-tu les cris de joie qu'elle poussera en te revoyant? Tu crois que ce seront des cris de joie? Oh, mon Dieu, je l'espère bien. Moi aussi, je l'espère, dit l'abbé, d'un air qui prouvait qu'il y avait dans son esprit plus de doute que d'espérance. Puis un homme qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins. Allons, allons, dit-il à la frégate. Bougainville semblait être servi par des génies, et ces génies semblaient obéir à l'abbé Rémy. De même que lorsque celui-ci avait crié « Au Havre !», il avait trouvé la calèche toute attelée. De même en criant « À la frégate !», il trouva la voix du capitaine toute parée. Il descendit dans la barque, s'assit près de Bougainville qui prit le gouvernail. 12 matelots attendaient les larmes levées. Bougainville fit un signe. Les 12 rames retombèrent, battant l'eau d'un mouvement si égal qu'elles ne frappèrent qu'un seul coup. La yole volait sur la mer comme ces araignées des eaux qui glissent sur leurs longues pattes. En moins de 10 minutes, on était à bord. Il va sans dire que cette merveille maritime qu'on appelle une frégate éveilla au plus haut degré l'enthousiasme du bon abbé Rémy. Il demanda à Bougainville le nom de chaque mât, de chaque vergue, de chaque agrès. De voile, il n'en était pas question, toutes étaient carguées. Au milieu de la nomenclature des différentes pièces qui composent un bâtiment, on vint prévenir le capitaine qu'il était servi. L'abbé et lui descendirent dans la salle à manger. La salle à manger pourrait le disputer en commodité et en élégance à celle du plus riche château des environs de Paris. L'abbé marchait d'étonnement en étonnement. Par bonheur, quoiqu'on fût au 15 novembre, la mer était magnifique. Il faisait une de ces belles journées d'automne qui semblent un adieu envoyé à la terre par ce soleil d'été que l'on ne reverra que dans 6 mois. L'abbé Rémy n'avait pas le moindre mal de mer, ce qui lui valut les félicitations des officiers supérieurs admis à la table du capitaine et celles du capitaine lui-même. Cependant, vers le milieu du dîner, il lui sembla que le mouvement de la frégate augmentait. Bougainville répondit que c'était le flux et se livra à l'exposé d'une savante théorie sur les marées. L'abbé Rémy écouta avec la plus grande attention et le plus vif plaisir la dissertation scientifique de son ami, et comme il n'était pas étranger aux sciences physiques, il fit de son côté des observations qui parurent ravir en admiration les officiers. Le dîner se prolongea plus longtemps que les convives ne le croyaient eux-mêmes. Rien ne trompe sur la durée des heures, comme une conversation intéressante arrosée de bon vin. Puis arriva le café, ce doux nectar pour lequel l'abbé Rémy avouait sa prédilection. Celui du capitaine Bougainville offrait un si savant et si heureux mélange de mocha et de martinique, qu'en le sirotant à petite gorgée, l'abbé Rémy déclara d'en avoir jamais pris de pareil. Puis après le café vinrent les liqueurs, ces fameuses liqueurs de Madame Anfou qui faisaient les délices des gourmets de la fin du dernier siècle. Enfin, les liqueurs savourées, l'abbé Rémy proposa de remonter sur le pont. Bougainville ne fit aucune opposition à ce désir, seulement il fut obligé dans l'escalier de donner le bras à son ami lequel attribuait naïvement son défaut d'équilibre au vin de champagne, au café moka et au liqueur de Madame Anfou. La frégate marchait bâbord à bure, le cap au nord-nord-ouest, ayant le vent grand large, toute voile dehors, des bonnettes basses aux bonnettes de perroquet. Il n'y avait pas jusqu'aux voiles d'été qui ne fussent déployées. On pouvait filer 11 nœuds à l'heure. Le premier sentiment du bon abbé fut tout à l'admiration que lui causait ce chef-d'œuvre d'architecture maritime endimanché de toutes ses voiles. Puis il s'aperçut que la frégate marchait. Puis il regarda autour de lui. Puis il poussa un cri de terreur. La terre de France n'apparaissait plus que comme un nuage à l'horizon. Il regarda Bougainville d'un air qui contenait toute la gamme des reproches que peut faire à un ami la confiance trompée. Mon cher, lui dit Bougainville, j'ai eu tant de bonheur à te revoir, toi, mon plus ancien et mon plus cher camarade, que j'ai résolu que nous nous quitterions que le plus tard possible. Il me fallait un aumônier à bord de ma frégate. J'ai demandé pour toi cette place à Sa Majesté, qui t'a fait la grâce de l'accorder avec 1000 écus d'appointement. Voici ton diplôme. L'abbé Rémy jeta un regard effaré sur sa nomination. Mais, dit-il, où allons-nous? Faire le tour du monde, mon cher. Et combien de temps cela peut-il demander de faire le tour du monde? Oh, de 3 ans à 3 ans et demi, tout au plus. Mais compte plutôt 3 ans et demi que 3 ans. L'abbé se laissa tomber anéanti sur le banc de car. Oh, murmura-t-il. Je n'oserais jamais me représenter devant Marianne. Je te promets de te reconduire jusqu'au presbytère et de faire ta paix avec elle, dit Bougainville. Le 15 mai 1770, la frégate La Boudeuse rentrait dans le port de Saint-Malo. Il y avait juste 3 ans et demi qu'elle avait quitté le Havre. Bougainville ne s'était pas trompé d'un jour. Dans l'intervalle, elle avait fait le tour du monde. Dieu seul sait ce qui se passa dans la première entrevue qui eut lieu entre l'abbé Rémy et Marianne.